Bonjour, ici c'est les vents d'Amérique latine, l'émission qu'on fait à Radio San Ferréol, et on remercie toujours la possibilité d'utiliser cette antenne, et en particulier notre remerciement à Manu qui nous aide toujours pour démarrer et manipuler tous les boutons de la technique. Bon, aujourd'hui, et notre association Amérique latine pour les droits et libertés fondamentales va vous présenter trois sujets. Le premier sur la sélection générale au Pérou, qui auront lieu prochainement dans quelques jours. Et puis, on va parler aussi du forum de haut niveau de la CELAC, de la Commission d'État latino-américain et du Caraïbe, qui a eu du 18 au 21 mars en Colombie. C'était un forum entre la CELAC et des plusieurs pays d'Afrique. Le troisième point sera sur la manifestation du 28 mars aux États-Unis, appelée No Kings. Les élections générales au Pérou. Et cette année, donc au mois d'avril, dans quelques jours, on aura les élections générales au Pérou, que de façon complètement particulière, il y aura 35 candidats à la présidence de la République. Les élections générales au Pérou sont vraiment démocratiques. Les droits et libertés fondamentales sont-ils en vigueur, sont respectés? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation au Pérou dans ce contexte électoral? On voit que immédiatement, il y a une subordination de toute la politique économique et les critères aussi légaux et même répressifs, en subordination aux intérêts des grands capitaux, surtout des capitaux extractifs qui font des bonnes affaires, d'excellentes affaires, surtout maintenant avec les prix du pétrole qui montent. Et donc, cette subordination à cet intérêt est contraire aux intérêts de la population, et surtout quand il y a des mines de pétrole et tout ça, la population est réprimée parce que sur ces territoires, il y a des contaminations et d'autres problèmes qu'on va expliquer immédiatement. Le Pérou est un pays qui met l'ordre constitutionnel, juridique, militaire et policier au service de la répression du peuple et de la garantie d'énormes bénéfices pour le grand capital impérialiste. Et dans ce contexte, il y a des milliers d'accusations de terrorisme, criminalisation et persécution d'organisations politiques et de personnalités ayant des propositions différentes à l'ordre actuel de la dictature exercée depuis le Congrès, depuis la Chambre des députés aujourd'hui, nommée aujourd'hui. Avec l'emprisonnement et persécution des militants et dirigeants, par exemple du Movadef, Mouvement pour l'amnistie et les droits fondamentaux, fondé en 2010-2011, du Front d'unité populaire et pour les droits du peuple, des dirigeants du Front de défense du peuple d'Ayacucho, du président Pedro Castillo, de la ancienne première ministre de Pedro Castillo, Betsy Chávez, l'emprisonnement d'un parlementaire, Guillermo Bermejo, toute cette persécution, justement parce que il critique l'ordre établi, l'ordre sans liberté et avec des procès préparés pour la condamnation des dirigeants et des oppositeurs. Et donc, dans cette ambiance, il faut comprendre que l'État, pour donner une certaine légitimité, a ouvert les portes, parce que c'est le Parlement et c'est toutes les institutions de l'État dirigées par cette dictature parlementaire, qui décide qui peut se présenter ou non aux élections. Comme les représentants qui arborent les droits du peuple, les libertés fondamentales, sont très dangereux pour cette politique. Donc, ils donnent accès à d'autres formations politiques qui représentent à leurs yeux un danger. Ensuite, on peut voir en détail que avec la Constitution, en particulier avec l'article 62, il y a des concessions et d'énormes avantages fiscaux et de fonctionnement accordés pour les grands capitaux extractifs. Non. Elle donne des garanties à une sécurité de non-perturbation face aux protestations du peuple affecté. Et selon les défenseurs de la population, il y a au moins une centaine par mois de protestations contre ces capitaux parce qu'ils sont sur le même territoire, c'est-à-dire les paysans, les agriculteurs qui sont souvent sur un territoire dans lequel il y a des richesses minières, forestières, pétrolières, etc., sont en conflit immédiat avec toutes les centaines de concessions que l'État donne aux grands capitaux. Donc pour réaliser cette exploitation des ressources naturelles, et il faut que l'État, on peut dire entre guillemets, nettoie toute cette résistance, et ils ont différentes façons de le faire. Donc, la criminalisation de la population qui proteste contre l'usurpation des terres et des territoires, contre la contamination des rivières et des lacs, parce que toutes ces entreprises utilisent des produits chimiques et puis détruisent la forêt et tout ça. Donc, il y a des protestations. Alors, l'État déclare des états d'urgence sous le commandement des forces armées et de la police nationale, qui fait que, au long des dernières années, il y a des centaines de personnes qui ont été tuées et des milliers de blessés par balles. Donc, tous ces éléments montrent un état démocratique, des élections dites démocratiques et des candidats que, sans contester cet ordre et cette machine établie pour la subordination de l'État et du pays aux intérêts, à ses grands intérêts économiques, donc, il y a des listes, bien sûr, il y a aussi des favoris. Un autre élément, c'est dire que la loi 30-151 C'est une loi d'impunité militaire et policière. Pourquoi impunité? Parce qu'elle exonère de responsabilité pénale à tous ces militaires et ces policiers qui, dans des actions commandées, bien sûr, par les pouvoirs, ont fait des blessés ou sinon ont tué des personnes. Le décret législatif 1267 permet que toutes ces entreprises puissent avoir des contrats du personnel policier à leur service pour la sécurité et la répression dans les mêmes lieux, dans les mines pétrolières, etc. Et la loi 31-494 permet la création des comités d'autodéfense et de développement, groupes paramilitaires dans les zones d'exploitation minière, pétrolière, gazière et amazonienne. Ces groupes d'autodéfense sont composés par des civils, par des personnes qui sont originaires du lieu, qui sont organisés, payés et armés, donc paramilitaires, par ces entreprises, par la police nationale et aussi par les forces armées. Donc ça fait penser aux chemises noires de l'époque de Mussolini et à toutes ces bandes de paramilitaires qu'ont les différentes dictatures. Ils ont donné une autre loi, la 31-352, qui permet l'assassinat des prisonniers politiques et de faire l'autopsie à la charge de l'État et la crémation du corps et la disparition du corps. C'est-à-dire que même les familles, ils n'ont pas accès au reste des fonds. Donc, une loi pour tuer des prisonniers politiques s'est déjà passée dans le cas des deux prisonniers, Abimael Guzmán en 2021, et dernièrement, il y a un autre prisonnier qui a été tué, et appartenant au mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Et tout ça avec une corruption et liens qui ont avec des bandes criminelles dénoncées en détail par les généraux qui sont mis à la retraite, et le général Hervé Colchado qui était un militaire qui dirigeait les services de renseignement de la police. Donc, il avait beaucoup d'informations, tant des bandes criminelles comme des fonctionnaires de l'État. Et il avait montré, et continue à le montrer à plusieurs reprises quand il est interviewé, tous ces liens qui sont en place, justement pour, d'un côté, nourrir les fonctionnaires avec une corruption accrue et pour servir aux grandes entreprises qui font des excellents bénéfices. La dictature qui exerce le pouvoir politique au Pérou a préparé ses élections pour donner une apparence de légitimité et de liberté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
amargo que tu pena.
Continuer avec notre émission. Cette fois-ci, je vous fais part de la réalisation d'un forum en Colombie entre les 18 et 21 mars entre les pays, un forum qui a concentré les représentants et même des présidents de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes et des pays africains sous la présidence, avec la présidence en Colombie, la présidence de M. Petro. Les objectifs principaux, c'était de renforcer la coopération sud-sud entre l'Afrique et l'Amérique latine, développer les échanges commerciaux et économiques, promouvoir la coopération pour le développement durable, discuter de la justice réparatrice et des réparations historiques liées à l'esclavage et à la colonisation, avancer vers un futur sommet officiel Union africaine, CELAC. Trois grands axes ont structuré les discussions. D'abord le commerce, la coopération et la mémoire historique. Les pays participants en Amérique latine, c'était la Colombie, le Brésil, l'Uruguay, Guyane, Saint-Vincent et les Grenadines, Pérou, Guatemala, Venezuela, Antigua, Barbuda, Haïti et d'autres États. D'Afrique, il y avait les représentants du Burundi, Togo, Sénégal, Ghana et aussi des représentants d'autres pays. Le résultat de la conclusion, c'était le renforcement des partenariats stratégiques Afrique-Amérique latine, engagement pour augmenter le commerce sud-sud, coopération sur la transition climatique, discussion avancée sur les réparations historiques et la mise en place des mécanismes de dialogue politique permanent entre les deux régions. C'est un forum très important puisque, depuis des siècles, les relations entre l'Amérique latine et l'Afrique se font à travers une relation avec les pays du Nord, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, le Japon. Et donc, c'est une relation qui est en place aujourd'hui, Nord-Sud. Le Nord profite des grands capitaux, des investissements, et pour extraire surtout les ressources naturelles de l'Amérique latine et de l'Afrique. Et donc, avec ce forum, c'est un élan pour développer les relations sud-sud avec d'autres termes. Le président Gustavo Petro a signalé des points importants. Une, la critique à l'ordre international et à l'ONU. Petro a affirmé que l'Organisation des Nations Unies n'arrive plus à empêcher les guerres. Il a déclaré que l'ONU peut entrer dans une paralyse face au conflit actuel. Il a appelé un cessez-le-feu mondial, notamment pour éviter l'extension des conflits vers une guerre globale. L'axe central, c'était la réforme du multilatéralisme et nouvel ordre international. Monsieur Petro prônait la construction d'un bloc politique du sud global. Il a présenté la coopération Afrique-Amérique latine-Caraïbes comme une alternative géopolitique. L'objectif est de renforcer les poids politiques du sud global face aux puissances multinationales. Le forum a été décrit comme une étape pour la coordination politique permanente entre les deux régions. Bien sûr, aussi, ils ont traité l'héritage colonial commun tant d'Afrique et de l'Amérique latine et la réparation historique. Et puis, sur la question des guerres promues par les États-Unis sur l'administration de Trump, ils ont fait un axe central aussi sur la question de la paix mondiale et le rejet de la militarisation. Ils ont parlé et mis en avant aussi les problèmes, la question de Venezuela et la situation du président Maduro emprisonné. La capture, l'arrestation et la séquestration, on peut dire plus exactement, du président vénézuélien Nicolas Maduro a été signalée comme un exemple d'ingérence extérieure. Lors du sommet CELAC, ils ont aussi exprimé leur solidarité avec le pays du Caraïbe, Cuba, et une position qui demande d'arrêter les blocus qui est serré sur Cuba, pratiquement avec une intention d'asphyxier. Un blocus, bien sûr, exercé par les États-Unis. Les dirigeants ont critiqué les blocus énergétiques contre Cuba, présentés comme un exemple de pression contre les pays du Sud. Par ailleurs, la déclaration du sommet de CELAC a appelé à la fin du blocus contre Cuba par les États-Unis, montrant que la question faisait partie des préoccupations politiques régionales. Un autre point qui a été mis aussi en avant, c'était la situation et la guerre contre l'Iran. Un dirigeant a dénoncé que la guerre lancée contre l'Iran et la comparée avec l'invasion de l'Irak et d'autres invasions réalisées par les États-Unis. Le sommet a aussi appelé un cessez-le-feu au Moyen-Orient, le respect de la souveraineté de l'Iran et une cesse de l'agression contre la population iranienne avec les bombardements et les agressions militaires qui se réalisent aujourd'hui. Ils ont exprimé leur position, une position très forte sous l'angle de l'anti-guerre et le non-interventionnisme. Maintenant, on va passer à une pièce musicale. Maintenant, on va parler sur la manifestation du 28 mars 2026 No Kings aux États-Unis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voudrons exprimer toute notre solidarité en tant qu'association avec le peuple iranien et avec l'État iranien qui s'est fait agresser cette fois-ci. Et cette fois-ci, il y a une affaire de plus par les États-Unis et l'Israël sioniste. Une question qui affecte pas seulement l'Iran, mais aussi l'économie, et on les sent même ici en France, avec l'augmentation des gaz, des produits pétroliers, des licences, et tout ça, et une répercussion au niveau, même aux États-Unis et au niveau mondial. Et c'est une agression qui a causé des milliers de morts parce qu'ils ont bombardé des villes, des infrastructures, même des écoles, en tuant des enfants, des écoliers. Et donc, ces crimes, dans l'ambition de s'approprier des ressources pétrolières de l'Iran et de continuer à avoir plus d'exploitation et de bénéfices pour les grands conglomérats des États-Unis qui ont à sa tête un type qui se croit un roi, qui se croit, comme le disent les États-Unis eux-mêmes, et que tous les crimes sont permis dans sa politique, qu'il a fait déjà avec des crimes, avec l'arrestation du président vénézuélien Maduro, et envisage aussi de continuer avec ses politiques avec Cuba. Donc, une fois de plus, toute notre solidarité avec le peuple et l'État iranien qui résistent à ces agressions. Bien, le 28 mars 2026, il y a eu une mobilisation d'ampleur historique. Les manifestations ont eu lieu dans les 50 États et plus de 3300 rassemblements coordonnés. Les organisateurs estiment plus de 8 millions de participants, ce qui ferait plus de la plus grande manifestation d'une journée de l'histoire des États-Unis. Des cortèges ont eu lieu dans grandes villes, petites villes et même en zone rurale, montrant une mobilisation très large, socialement et géographiquement. Le mouvement Non Kings existe depuis 2025 et représente une troisième vague de protestation nationale contre l'administration de Trump. L'essence politique du slogan No Kings. No Kings exprime l'idée que le président agirait comme un dirigeant autoritaire et monarchique, ce qui conteste les manifestants. Les principales revendications en mars 2026, c'était une opposition à la dérive autoritaire et à la concentration du pouvoir de l'exécutif, protestation contre la guerre avec l'Iran, lancée en 2026, critique des opérations migratoires et des tirs des agents de l'ICE, des agents fédéraux, défense des libertés civiles, des droits LGBTQ et des migrants, dénonciation de la répression politique et du recul démocratique. Certains rassemblements faisaient aussi suite à des fusillades liées à des opérations d'immigration qui ont fortement choqué l'opinion. Mais qui organise le mouvement et même est une coalition large. Un mouvement 50-500 ans indivisible, démocratique, socialiste, of America, syndicat AFL-CIO, organisation de défense des droits civiques, réseau démocratique et progressiste. Tout cela explique la participation des syndicats, des étudiants, des ONG, militant pour les droits civiques et électeur démocrate indépendant, anti-Trump. Il y a eu aussi la participation des personnalités, des artistes, des intellectuels. Plusieurs figures culturelles ont participé au prix La Parole. Par exemple, Robert De Niro, dont son intervention a été une des critiques les plus fortes, les plus aiguës contre Trump, que nous, à la vue de toutes ces actions et tous ces crimes, on peut le qualifier de façon très claire comme un criminel de guerre, comme un criminel tout court. Non. Il y a eu la participation aussi des jeunes fondas de Bruce Springsteen, de John Baez et d'autres personnalités qui ont participé aux réunions des rassemblements dans des différentes villes. Certains artistes ont également dénoncé les attaques contre le Premier Amendement et la liberté d'expression avant les manifestations. Le rassemblement principal a eu à Minneapolis. Et à Minneapolis, il y avait des prises de parole politiques. Donc les représentants et les dirigeants politiques de cette région, il y a eu des concerts, interventions des intellectuels et militants, ce qui lui donnait un caractère culturel et politique très fort et tout ensemble. Pourquoi cette mobilisation a été si massive? Plusieurs facteurs ont été cumulés. Non. Il y a eu l'accumulation de conflits politiques autour du second mandat de Trump, la guerre avec l'Iran, la politique migratoire qui ont fait même des assassinats et des expulsions brutales des migrants, la perception d'un pouvoir présidentiel et dictatorial, la coordination nationale des centaines d'organisations et la participation active du monde culturel et intellectuel. Tous ces éléments ont créé une coalition très large. Gauche, libéraux, mouvements politiques, civiques, syndicaux, qui c'est quelque chose de rare à la vue des États-Unis. La signification politique, selon des analystes qu'on a consultés, disent que ces manifestations expriment une opposition populaire massive. Elles peuvent influencer des élections à venir, mais leur efficacité dépendra dès lors que toutes ces manifestations, toute cette force, toute cette coordination puissent et se traduire, puis élaborer une stratégie politique durable.
Para la mujer peruana, para todos ustedes, una rosa roja.
Masticando tu miseria, mitigándome en tu hambre, compartiendo tu condena,
Guairo Serrano.
Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, El hambre se hizo canción y la herida encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Palomita encantadora, acepta esta rosa roja que fue regada con llanto
de nuestros niños,
que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias. Que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad, será color de la rosa, color de felicidad. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color. Será color de la rosa, color de felicidad. Será color de la rosa, color de felicidad.
Gracias.
Bien, c'était Walter Humala, compositeur de luth très populaire, qui avec ses chansons prône et encourage la lutte du peuple et signale tous les bénéfices que le peuple a besoin et qu'il peut conquérir avec ses mobilisations. Walter Humala, bien sûr, il a été condamné à 16 ans de prison en tant que terroriste. Et c'est selon les critères exercé par la démocratie au Pérou qui va réaliser ses élections dans quelques jours. Élections démocratiques, bien entendu. Bien. Et maintenant, pour finir, une nouvelle chanson.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio.
On finit l'émission avec la Massa, chantée par Mercedes Sosa, qui elle aussi nous a laissé, nous a donné beaucoup de ses compositions et de ses chansons. Elle a participé aussi à pas mal de concerts ici en Europe et en particulier en France. Donc écoutons Mercedes Sosa.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, es la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera.
Merci de votre écoute, et on vous dit à la prochaine émission.